Bonjour.
En fait, je suis trop petit. Voilà. Merci encore à vous de nous avoir accueillis aujourd'hui dans la maison de Dieu, pour pouvoir partager ce message aujourd'hui encore. Merci pour cette lecture qui a été lue encore devant nous. Le témoin du royaume de Dieu. D'abord, le week-end dernier, on était à Houlgate. Vous savez où c'est Houlgate? C'est vers la Normandie. On était là-bas pour le week-end de rentrée. Et le thème qu'on avait eu, c'était sur la prière. Comme tout, je me suis dit, si je vais prendre la prière, je vais reprendre ce qui a été dit. Du coup, j'ai choisi aujourd'hui de vous partager deux sujets. Vous êtes le sel de la terre, premièrement. Et deuxièmement, vous êtes la lumière du monde. Comme nous le savons tous, chers amis, c'est un texte très connu. Et peut-être aussi que l'on prêche le plus souvent dans nos églises, ou du moins, presque pas. Mais je suis sûr que cela nous parle encore aujourd'hui, ou peut-être même maintenant. Du chapitre 5 de l'évangile de Matthieu au chapitre 7, on parle du sermon sur la montagne. Lorsque nous regardons la structure et le contexte, le sermon sur la montagne est le premier discours, le plus long et le plus connu des cinq discours de l'évangile de Matthieu. Dans ces cinq discours, Matthieu rassemble longuement et de façon thématique l'enseignement de Jésus. Et de plus, le sermon a fait l'objet de plusieurs interprétations. Oui, chers amis, le sermon qui débute a strictement parlé au chapitre 5 et verset 3. Comprend plusieurs parties bien connues et souvent utilisées par nos églises et les autres chrétiens. Les béatitudes, du chapitre 5, au verset 3, jusqu'au verset 12, en fait partie. Le sermon sur la montagne comprend plusieurs éléments, des répétitions et de poésie qui permet de structurer le texte en détail. Nous nous contenterons d'une grande ligne qui est celle de « Vous êtes le sel de la terre et vous êtes la lumière du monde. » A-t-il encore quelque chose à nous dire aujourd'hui? Ces deux petites phrases. A-t-il encore quelque chose à nous montrer aujourd'hui? Eh bien, nous allons le découvrir ensemble. Nous voyons dans ce texte des images que Jésus veut nous montrer. Mais une image, c'est toujours une image. Ce n'est pas la réalité. Mais d'un autre côté, le choix de l'image n'est pas arbitraire, mais intentionnel. Dans les lectures que nous venons de lire, c'est que si Jésus choisit des images, c'est bien souvent pour nous faire réfléchir à nous. Et il veut aussi faire réfléchir ses auditeurs. Le « vous » du verset 13 prolonge celui du verset 11 et 12. C'est donc toujours le disciple de Jésus qui est en cause. L'homme ou la femme des béatitudes, donc quelqu'un heureux, quelqu'un d'heureux, et l'image du sel dans le monde antique, dont les principales étant de donner le goût. Donner du goût, conserver et purifier. On peut mentionner aussi son rapport au sacrifice qui est écrit dans l'Ancien Testament, dans le livre de la loi, dans le livre de Moïse, dans Lévitique, au chapitre 2, au verset 13. Aujourd'hui, nous n'accordons pas la même importance au sel qu'avant, surtout pour d'autres populations du globe. Le sel est un produit courant, banal, que l'on peut obtenir facilement. Il devient même parfois un ennemi où l'on doit faire des régimes alimentaires, des régimes sans sel. Mais dans bien des régions du monde, le sel est rare et précieux. Dans d'autres pays, le sel est un rare produit que l'on peut obtenir que par achat. Chez nous, le sel, on est entouré de sel. C'est l'océan Pacifique, une petite île, tout petit, qui fait 60 km de long, 30 km de large. Tout autour de nous, il n'y a que du sel. Que bien des gens, que s'ils avaient quelques sous, vont en acheter en priorité du sel. Alors, du temps de Jésus, et on allait un peu de même, même si en Israël le sel est moins rare, c'est quand même un produit précieux, même très précieux. Et cela pour plusieurs raisons. Pour les Juifs du temps de Jésus, le sel, c'est le symbole de l'alliance. Toute alliance importante comportait une forme de sel. Et Dieu, dans la loi qu'il avait donnée à son peuple au Sinaï, où il disait, dans le Lévitique au chapitre 2, verset 13, que j'avais mentionné précédemment, on salera toute offrande qu'on apportera et on n'en mettra jamais de mettre du sel qui représente l'alliance conclue par ton Dieu. Alors, chers amis, nous nous questionnerons sur ce que c'est le sel et la lumière. Qu'est-ce que le sel pour moi? Ou qu'est-ce que le sel pour vous? Cela veut dire que le chrétien est un signe de l'alliance que Dieu a établie avec les hommes. Jésus, le Fils de Dieu, s'est offert en sacrifice pour notre salut. Il a scellé son alliance entre Dieu et les hommes en versant son propre sang. Le sang par lequel est scellée l'alliance qui a été versée pour beaucoup d'hommes, afin que leurs péchés leur soient pardonnés. Mais même ce sacrifice complet, total, parfaitement accompli une fois pour toutes, pleinement suffisant, il veut qu'il soit accompagné de sel. Il ne faut pas qu'il manque de sel. Et c'est nous, ses disciples, nous, frères et sœurs, qui devons être ce sel. Voilà notre mission. Nous sommes le signe de cette alliance parfaite que Dieu veut établir entre lui et les hommes. Et là, nous devons donc nous offrir totalement à Dieu comme témoin du salut en Jésus-Christ auprès des hommes. Sans le témoignage des disciples du Christ, comment les hommes pouvaient-ils être ou comment pouvons être au bénéfice de son sacrifice parfait? Le sel, c'est aussi un agent conservateur. Dans le pays chaud, sans réfrigérateur, ce n'est pas simplement de conserver des denrées alimentaires. Alors, divers procédés sont possibles selon les régions et les climats et les types d'aliments, mais partout le sel est utilisé. C'était un bon conservateur. On peut ainsi saler de la viande, du poisson pour les conserver. Et on pourra le dessaler pour pouvoir le consommer avant de les cuire. Dans des pays où il n'y a pas de sel, il est quasiment impossible de faire des réserves, d'où la valeur apportée au sel. De même que de la viande ou du poisson qui ne sont pas salés ne peuvent que se décomposer rapidement. Et ça, nous le savons tous. De même, le monde dans lequel nous sommes, sans témoins, ne peuvent que se corrompre irrémédiablement. Et cela est vrai au plan strictement religieux. La très grande majorité des réformes sociales qui diminuent l'exploitation de l'homme par l'homme ont à leur origine des chrétiens convaincus de l'enseignement. Et bien entendu, la préservation contre la corruption par le péché reste première. Le chrétien a une mission. Nous avons tous une mission dans ce monde, celle de préserver de la corruption, en permettant au plus grand nombre d'être sauvés. Comme l'a écrit un commentateur, et je vous le dis aujourd'hui, le chrétien dans ce monde est en quelque sorte un antiseptique moral. Et le sel est avant tout un condiment, un assaisonnement. Sans le sel, tout devient fade. Ou pour dire les choses un peu différemment, le sel, c'est ce qui donne un goût mauvais aux aliments quand on n'en met pas. Ce n'est pas par son goût propre qu'on aime le sel, chers amis. Je voudrais vous proposer un avis personnel. Lorsqu'on est invité à un repas chez des amis et que vous dites « le sel est très bon », qu'est-ce que vous percevez comme message en retour? Exactement. Ça ne sera pas perçu comme un compliment, n'est-ce pas? Juste pour le sel. On aime le sel parce qu'il révèle et il relève le goût des aliments quand il est bien dosé. On aime le sel pour cette priorité et non pas pour son goût à lui, mais parce qu'il permet d'apprécier l'aliment qu'on est en train de manger. Le sel, il est à la fois bien discret. Notre mission n'est pas de nous faire remarquer, chers amis. Mais d'un autre côté, il faut encore que notre présence soit remarquable. De même que le sel met en valeur le goût des aliments et le rend agréable à la consommation. De même, le chrétien fait ressortir pour ses contemporains la saveur d'une vie vécue en communion avec le Christ ressuscité. Alors, on peut dire que sans Christ, la vie est fade. Comme les pleurs peuvent se changer en amertume, la douceur se laisser tenter par la violence, la faim et soif de justice devenu désir de vengeance. La pureté du cœur devenue pharisaïsme. Et bien d'autres encore. L'image d'Estelle invite donc à considérer le portrait des béatitudes comme un portrait évolutif et donc comme quelque chose que l'on peut être ou cesser d'être et redevenir. Sinon, elle ne vaut pas la peine d'être vécue, ou plutôt, ne vaut vraiment pas la peine d'être vécue. Ma vie, notre vie, est-ce qu'elle fait envie à mes contemporains? Nous sommes le sel de la terre. Nous sommes les témoins de Jésus-Christ. De même que du sel qui aurait perdu son goût. Ou plutôt, sa salinité donc, ce genre de sel ne servira à rien. De même le disciple, ou celui qui prétend être disciple, et qui n'est pas témoin, est parfaitement inutile. Le deuxième point que je vais vous partager, qu'est-ce que la lumière pour moi? Ou, qu'est-ce que la lumière pour vous? L'image de la lumière ne communique pas un message différent de celle du sel, chers amis. Mais elle apporte une précision. Le sel, sale par nature. Et la lumière éclaire par nature. C'est inévitable. On est bien d'accord. De plus, la lumière demeure une image très présente dans le reste du Nouveau Testament. Les chrétiens appartiennent à la lumière, qui est dit dans Éphésiens chapitre 5, verset 8, et brille dans le monde, Philippiens chapitre 2, verset 15, portant la lumière de l'Évangile, 2 Corinthiens chapitre 4. L'image de la ville et celle de la lampe peuvent aussi être rapprochées de l'Ancien Testament. Dans l'Ésaïe, dans le prophète Ésaïe au chapitre 2, verset 5, où il est mentionné plusieurs fois le mot « lumière ». Mais ici, Jésus dit à ses disciples que vous êtes la lumière du monde. Et pour bien montrer ce qu'il veut dire, il utilise ici une double comparaison ou deux images, qui est une ville qui se trouve sur la colline et une lampe placée sous un support. Alors, la lumière, nous le savons tous ce que c'est. Son utilité n'a pas beaucoup changé pendant des siècles. Même si l'intensité lumineuse a éventuellement changé, et les intermédiaires pour obtenir aussi. Dans notre Occident contemporain, nous faisons très bon usage de la lumière, sans toujours nous rendre compte de sa valeur. Toutefois, lorsque nous sortons dans une région reculée, où une panne de voiture, en rase campagne, en pleine nuit, sans lune, ou une ampoule grillée dans notre garage, nous rappelle périodiquement sa valeur, la valeur de la lumière. Qui dit lumière, dit en effet obscurité, n'est-ce pas, chers amis? Lumière est un de ces mots qui se définit bien par son contraire. La lumière, c'est l'absence d'obscurité. D'ailleurs, le récit de la création auquel fait aussi référence les textes de l'Évangile de Jean établit bien cela. Dans la Genèse, il est dit Dieu dit qu'il est de la lumière, et il y eut de la lumière. Et Dieu dit que la lumière était bonne, et il sépara la lumière des ténèbres. Les ténèbres étaient là, et la lumière le dissimule. En fait, la lumière, ça se voit. Et c'est à cela que Jésus, en lisant ses paroles, quand il utilise l'image de la ville sur la colline, le chrétien ne peut pas passer inaperçu. Nous ne pouvons pas passer inaperçu. Cet aspect avait été relevé pour le sel, qui se remarque obligatoirement par son goût. Et la lumière, on le remarque obligatoirement à la lune. De la même manière qu'il est impossible qu'une source de lumière reste invisible dans la nuit noire. De la même manière, il doit être impossible qu'un chrétien passe inaperçu dans ce monde. Nous sommes tous témoins. Et un témoin, ça se remarque. La lumière ne peut pas se camoufler en ténèbres. Elle ne peut pas passer inaperçue dans la nuit. Nous ne devons pas chercher à nous camoufler, à passer inaperçue. La lumière est là pour notre vue. C'est une de ses fonctions essentielles. Il est aussi un repère pour un voyageur perdu. C'est comme la ville située sur une colline et qui se voit de loin, le dit Jésus. Nous avons pour mission d'être ces repères pour nos contemporains déboussolés. En fait, l'œuvre de Dieu en nous qui doit se voir. Nos contemporains doivent pouvoir voir le bien que nous faisons et de louer notre Père qui est dans les cieux, le dit Jésus à ses disciples. Et cela, il le fait en œuvrant en nous par son esprit. Alors, nous sommes certes appelés à témoigner verbalement de notre salut et de notre espérance. Mais nos actes et notre attitude doit confirmer ces paroles. Dans certains, quand même, nos actes sont en fait notre seule possibilité de témoignage. Et pour cela, comme l'apôtre Paul le dit dans l'épître aux Galates, ne nous lassons pas de faire le bien. Le danger qui nous guette le plus, ce n'est pas que nous risquons de faire le mal, mais c'est de ne pas faire le bien que nous pourrions et devrions le faire. Mais la lumière, non seulement se voit, mais aussi et surtout, elle permet d'y voir clair. Et c'est là aussi notre mission à nous. Jésus insiste là-dessus en disant que notre lumière doit être placée sur un support, bien en vue, à l'endroit où elle sera le mieux placée, pour éclairer le plus grand nombre. Notre monde est plongé dans une nuit épaisse. Nos contemporains ne voient même plus leurs pieds, encore moins le chemin sur lequel ils y vont. Ils ne voient plus aucun repère qui leur permettrait de retrouver le chemin et s'éloignent de plus en plus de la seule source de salut. Face à cette situation, chers amis, nous sommes appelés à être lumière et à ne pas essayer de se dissimuler. Mais à être ce repère qui se voit, à être cette lumière qui éclaire et qui permet d'y voir. cette ville et cette lampe qui éclaire, ce sont celles de Dieu, bien sûr. Ce sont celles de Dieu qui éclairent le monde et qui veut que son peuple reflète cette lumière pour que sa gloire s'étende jusqu'aux extrémités de la terre. C'est vous qui êtes le sel de la terre. C'est vous qui êtes la lumière du monde. Celui qui dit cela, c'est celui dont il est dit qu'il était le seul et la seule et véritable lumière, celle qui vient du monde et qui éclaire tout le monde, tous les hommes. Jésus, qui donne cette mission à ses disciples, c'est aussi celui qui dit de lui-même, « Je suis la lumière du monde. » C'est Jésus-Christ qui est la lumière du monde. C'est lui qui nous montre le chemin. Mais elle dit bien ici, c'est vous. Donc aujourd'hui, c'est à nous maintenant d'être ce sel de la terre. C'est à nous maintenant d'être cette lumière dans le monde. Oui, vous, toi et moi, nous qui réclamons de son nom, on porte le nom chrétien. Ce ne sont pas certains d'entre nous, pasteurs, évangélistes, missionnaires, membres du conseil ou bien d'autres encore. Non. C'est chacun d'entre nous, individuellement. Et nous tous, en tant qu'Église, corps de Jésus-Christ, peuple de Dieu. Nous ne sommes pas, nous tous, chers amis, nous ne sommes pas des clignotants allumés que le dimanche. Et ça, c'est vrai. Nous ne sommes pas des clignotants allumés que le dimanche et éteints tout le reste de la semaine. Mais nous sommes des lampes bien allumées, bien en vue et qui éclairent largement notre vie de chrétien. Pour conclure, chers amis, nous ne sommes pas un succès de sel insipide, mais du bon sel bien dosé. Mais Jésus dit, vous êtes le sel de la terre et vous êtes la lumière du monde. Et cela ne vient pas de notre propre effort que nous sommes, mais par la grâce de Dieu qui agit en nous, par l'œuvre de son Esprit, qui nous a envoyé le jour de la Pentecôte et qui continue à répandre sur son Église. Mais nous avons la responsabilité en tant que sel de ne pas perdre notre saveur, en tant que lumière de ne pas la mettre sous un seau, de ne pas la cacher, mais de rester bien visible et d'éclairer tout autour de nous, dans le moindre recoin, le plus sombre, auprès comme loin. Car la mission qu'il nous confie concerne toute la terre, concerne tout le monde entier. Nous avons aussi la responsabilité de laisser l'Esprit de Dieu agir en nous, de ne pas l'empêcher d'œuvrer en nous et à travers nous. La lumière que nous portons est celle de Dieu. Le but est que nous puissions le rendre gloire par Jésus-Christ. Comme l'a dit un ami encore, et moi je vous le dis encore aujourd'hui, le monde est plein d'ombre. Brillons. Oui, brillons. Tous. Toi, vous dans votre coin sombre, et moi dans le mien. Alors, chers amis, le sel et la terre, le sel de la terre et la lumière du monde. Parle-nous vraiment encore aujourd'hui? Prions le Seigneur. Notre Dieu, notre Père, Nous voulons te rendre grâce parce que tu as donné un sel en nous pour que nous puissions les partager. Tu as donné cette lumière qui n'est pas placée sous un seau, mais sous un endroit visible, comme tu l'as mis sur la colline en image, Seigneur. Nous ne voulons pas nous camoufler, nous ne voulons pas nous cacher de toutes ces choses devant nous, Seigneur. Mais nous voulons nous éclairer et être avec toi, Seigneur, pour que nous puissions partager ta parole, qui est la vérité. Nous sommes le sel que tu attends, Seigneur, et nous sommes la lumière que nous voulons partager partout dans le monde. Viens avec nous, Seigneur. Tu es le centre de toutes nos vies. Amen.